Chapitre 2. L'homme noir. De même qu'un clandard peut employer ses talents pour influencer l'esprit éveillé et le convaincre de la réalité d'une illusion, un rêveur d'art se sert de son don sur son propre esprit endormi pour créer un monde qui devient pour lui aussi réel que celui où nous vivons le jour. En un sens, il oppose sa magie à ses propres pensées. Alors que, pour la plupart, nous ne maîtrisons nullement nos songes, le rêveur d'art, lui, a des chances de n'en avoir jamais fait qu'il n'ait décidé et risque même d'éprouver des difficultés à comprendre à quoi peuvent ressembler de tels songes ou que les autres rêvent ainsi. Des rêves d'art. Maîtresse d'art sollicitée. Je dormis bien, sans qu'aucune image vint troubler mon repos, et me réveillai en entendant le bruit des vagues sur la grève. L'aube pointait à peine, mais déjà gardes et guerriers du Hedgurd s'affairaient. J'allais au ruisseau et m'aspergeais le visage d'eau glacée. La marée montante avait recouvert le dragon de pierre, mais maintenant que je le savais là, je percevais une espèce de murmure de vif qui montait des ondes. Je regardais les navires à l'ancre. J'aurais voulu demander à Tram ce qu'il pensait de la sculpture, mais les remords m'en empêchaient. Je n'avais pas tenu parole. Je ne lui avais pas donné l'autorisation de m'enseigner sa science. Avais-je le droit de le prier de l'employer à mon profit, alors que je refusais de l'apprendre moi-même? Je savais bien comment je réagirais si l'Est adoptait pareille attitude. Assombri, je songeais qu'il n'y avait qu'un nombre limité d'heures dans une journée, et que ces derniers temps, tout était pris sans exception. Je jetai un coup d'œil dans la tente où l'ours dormait toujours, et lâchement, je décidai de le laisser tranquille. Je me rendis près du feu des gardes, où le gruau commençait à mijoter. Longue Mèche n'avait aucune corvée à m'attribuer sur le champ. J'observais les navires mouillés dans la baie, mais n'y vis nul signe d'activité. Les invités avaient dû bavarder tard. Je retournai à la carrière. À la lumière du jour, il me sembla distinguer des ossements et l'arrondi d'un crâne humain dans la nappe d'eau. Mais les flancs à pic de l'excavation me dissuadèrent d'y aller voir de plus près. Les événements dont témoignaient ces vestiges remontaient sans doute à bien longtemps, alors que j'avais des soucis beaucoup plus immédiats. D'un pas flânant, je pris la direction des tentes des hommes du Hedgurd. Les guerriers étaient réunis et je crus d'abord qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur une table de pierre en conversant à mi-voix. Puis, comme je m'approchais, mine de rien, je me rendis compte que leur murmure dissimulait en réalité une dispute. Je m'arrêtai et fit semblant de me gratter et de m'étirer en contemplant la mer. Puis je mis un genou en terre, comme pour ajuster ma chaussure. Tout cela en tendant avidement l'oreille. Comme ils échangeaient leurs arguments à voix basse, j'avais du mal à saisir ce qu'ils disaient. J'en entendis assez toutefois pour comprendre qu'ils avaient laissé une offrande à l'homme noir sur le site traditionnel, c'est-à-dire la table de pierre, et qu'elle n'avait pas été acceptée. Je me relevai et me dirigeai vers eux. Avec un sourire de lourdeau et un accent des six duchés à couper au couteau, je leur demandai s'ils savaient quand le groupe de la Narcheska devait débarquer. Un homme à la carrure large, la joue ornée d'un ours stylisé, me répondit qu'il arriverait quand il arriverait. J'acquiesçai sans cesser de sourire, avec l'air légèrement égaré de celui qui n'est pas sûr d'avoir compris. Puis, désignant la table de pierre d'un signe de la tête, je m'enquis de ce qu'il mangeait, et je parvins à m'en approcher de trois pas avant que deux guerriers ne me barrent la route. L'ours m'expliqua qu'il s'agissait non d'un repas, mais d'une offrande, et que je ferais mieux de rejoindre mes camarades si je désirais me restaurer, car un mendiant n'avait rien à faire parmi eux. Je le dévisageais pendant qu'il parlait, en bougeant les lèvres au même rythme que lui, comme si j'avais du mal à saisir le sens de ses paroles. Puis, je souris largement, leur souhaitai le bonjour, et m'en allai. J'avais réussi à entrevoir la table de pierre. On y avait déposé un pot en argile, une petite miche de pain noir et une assiette de poisson salé qui nageait dans l'huile. Rien qui m'eût paru appétissant, malgré ma faim matinale. Je ne pouvais reprocher à l'homme noir de ne pas y avoir touché. En revanche, l'inquiétude des Outréliens devant ce refus apparent m'intéressait. D'après leur conversation, ils s'attendaient à ce qu'un habitant de l'île vînt s'emparer subrepticement à la faveur de la nuit de l'offrande. Ils n'en avaient rien fait, et cela les préoccupait. C'étaient des guerriers éprouvés, choisis par le Hedgurd pour accomplir leur mission sans état d'âme. La plupart des combattants que j'avais côtoyés manifestaient une attitude des plus terre-à-terre en matière de religion et de superstition. Certes, il leur arrivait de jeter du sel par-dessus leur épaule pour se porter chance, mais bien peu se laissaient impressionner par les signes de mauvais augure, tels que le vent chassant le sel de côté. Selon mon hypothèse, ces hommes pensaient que l'homme noir accepterait leur présent et par là leur signifierait qu'il les autorisait à rester sur l'île. Il avait refusé leurs dons et cela les troublait. En quoi leur peur affecterait-elle leur attitude à l'égard de notre quête? En retournant à ma tente, je songeais que cette croyance indiquait que dans le passé, de semblables offrandes avaient été acceptées. Quelqu'un résidait-il réellement sur l'île, ou bien, ce que je jugeais plus vraisemblable, la nourriture disparaissait-elle dans l'estomac d'un animal, comme le ravoleur avec lequel l'Est avait voulu se lier d'amitié? Je trouvais l'ours en train de se réveiller. Il paraissait un peu mieux disposé envers moi ce matin-là, et il accepta que je l'aide à s'habiller chaudement. Une quinte violente le laissa cramoisi et à bout de souffle, mais je ne montrai rien de l'inquiétude qu'elle m'inspira. Une toux qui durait pouvait abattre le plus robuste des guerriers. Or, l'ours n'était ni grand, ni vigoureux. Il luttait depuis trop longtemps contre son affection aux poumons, et voici qu'il devait séjourner sous une tente pleine de vent coulis par un été glacial. Sans lui faire part de ma préoccupation, je l'accompagnai jusqu'au feu pour y quémander notre part de gruau et de tisane chaude. Crible et les autres gardes manifestaient une bonne humeur acide, typique des hommes qui doivent affronter une tâche difficile et peut-être désagréable. Ils échangeaient des plaisanteries crues, se plaignaient de l'ordinaire et lançaient des commentaires méprisants sur nos « nounous » du Hedgurd. Assis un peu à l'écart, Longue Mèche attendit la fin du repas, puis distribua les corvées afin d'occuper ses hommes. Il avait fini par admettre que mon devoir envers la couronne consistait à garder lourd, et il ne m'imposa pas de tâches supplémentaires. J'emmenai donc le petit homme se promener. Il ne dit rien devant la carrière, ni le ruisseau de fonte, ne fit aucun commentaire sur le glacier bleu qui nous dominait de sa masse, mais comme nous passions, sans que le hasard y fût pour rien, sur la grève près du dragon submergé, il secoua la tête et déclara d'un ton grave :
« Ce n'est pas bon par ici. »
Il parcourut lentement les environs du regard et ajouta
« Il s'est passé des choses horribles ici, et on dirait qu'elles se passent en ce moment. »
J'aurais aimé approfondir la question, mais à cet instant, il tendit son bras courtois vers les navires.
« Les voilà !»
s'écria-t-il. Il avait raison. Les canots, chargés de passagers, se dirigeaient vers la grève. Nous les regardâmes approcher, Péotr, Sangrépé et la Narchesca en occupaient un. Imbre, le prince, Civil, son Marguet et Tram, un autre, et le fou, Lest et Niel, le dernier. Plein d'entrain, le ménestrel expliquait je ne sais quoi avec force gesticulation, pendant que Civil souriait largement, manifestement enchanté. Je poussai un petit soupir, puis souris à part moi. Mon fou n'avait pas perdu de temps pour les faire tomber sous son charme. Je regrettais sa présence sur l'île, car ses prophéties sur son propre sort m'effrayaient, mais en même temps, je ne pouvais nier m'en réjouir. Il me manquait. Quand les embarcations touchèrent terre, l'ours et moi n'étions plus les seuls à les attendre. Crible et un autre garde tirèrent celle de Péotr sur la plage, hors d'atteinte des vagues. Longue Mèche et moi en fîmes autant pour celle du prince, puis pour celle du fou. Il descendit du canot sans un regard qui pût trahir le moindre lien entre nous. Lorsque tout le monde eut débarqué, les guerriers du Hedgurd s'attroupèrent autour d'Arkon Sangrépé et, sans même baisser la voix, lui expliquèrent que l'homme noir n'avait pas accepté leur offrande. Dès lors, il proposait que nous reconnaissions le grave affront que représentait pour lui notre mission, que la Narchesca revienne sur ses exigences et libère le prince de sa tâche. Je me rendais compte de leur émotion, mais pas de l'importance qu'ils y attachaient. Conclus-je, après avoir artisé à Imbre et au prince la scène de la table de pierre. Ni l'un ni l'autre ne m'avait adressé un coup d'œil pendant que je leur transmettais mon compte-rendu. En retrait, ils attendaient poliment que s'achève la discussion à laquelle participaient Péotr et Sangrépé. La Narchesca elle-même se tenait à l'écart et contemplait la mer. On lui dit sculpter dans la pierre la résolution et la résignation inscrites au ciseau dans ses traits. Le débat sur l'homme noir se poursuivit, mais j'en fus distrait par l'arrivée du fou qui devisait aimablement avec Niel et Civil. Les épaisseurs noires et blanches de ses habits me rappelèrent tant l'époque où il faisait fonction de bouffon auprès du roi subtil que ma gorge se serra. Il ne jeta qu'un seul regard vers moi, d'un bref et imperceptible mouvement de ses yeux d'ambre, puis son attention s'arrêta sur la conversation des représentants du Hedgurd avec Péotr et Sangrépé. On eût cru voir un limier renifler soudain une sente. Il ne s'intéressa plus qu'à eux et s'approcha sans se soucier de paraître grossier. Les échanges avaient viré à la querelle, et les protagonistes parlaient si vite, d'une voix rendue gutturale par la colère, que j'avais peine à suivre leurs propos. Péotr s'écarta du groupe et croisa les bras. Ses yeux se perdirent au loin, mais dans le même temps, sa main claqua sèchement sur le fourreau de son épée. Ce geste n'était pas en usage dans les six duchés, mais j'en compris aisément le sens. Si quelqu'un voulait encore argumenter avec lui, il répondrait par le faire. Les hommes du Hedgurd se détournèrent de lui, refusant à l'évidence le défi, et s'attroupèrent autour de Sangrépé, qui exprima son impuissance à grands gestes, puis désigna sa fille en haussant les épaules, comme pour dire que les pensées des femmes restent inaccessibles au raisonnement masculin. Son attitude parut mener à une décision. Le guerrier à l'ours tatoué sortit du groupe et se dirigea vers la Narcheska. Elle ne bougea pas, dos à lui, alors qu'elle l'entendait certainement approcher, et elle continua de contempler l'horizon derrière les navires. Le vent agitait les bords de son manteau bleu à capuche et soulevait ses jupes brodées, assez pour laisser voir ses bottes en peau de phoque et les chausses de laine qui en dépassaient. Elle ne prêtait pas plus attention aux privautés de la brise qu'à l'ours immobile derrière elle. Il toussota, mais dut se résoudre à parler pour qu'elle consentît enfin à le regarder.
« Narcheska Eliania, j'aimerais vous dire un mot. »
Elle se retourna, et seuls ses yeux répondirent qu'elle avait entendu. L'homme décida d'y voir l'autorisation de poursuivre. Il s'exprima clairement, d'un ton solennel, dans l'intention, je pense, que tous comprissent ses paroles. Le hibou s'avança, sans doute afin de recueillir leurs paroles et les attester pour la postérité. Les bardes n'ont aucun sens de la discrétion.
« Vous avez certainement suivi toute notre discussion, mais la voici résumée en termes simples. Hier soir, nous avons laissé une offrande à l'homme noir, comme le veut la coutume lorsqu'on se rend sur cette île, quelle que soit la raison de la visite. Ce matin, nous l'avons retrouvé sur la table, intact. On dit depuis longtemps qu'on n'achète pas la bienveillance de l'homme noir, mais quand il accepte les dons, il donne l'autorisation au donateur de risquer sa vie sur son île. » Ce matin, nous avons compris que nous n'avions pas cette permission. Narcheska, nous vous avons accompagné en vous prévenant que le défi imposé à votre prétendant était déplacé. Vous ne nous avez pas écoutés. Prêterez-vous attention aujourd'hui à ce que l'homme noir lui-même nous montre. Nous ne sommes pas les bienvenus. Nombre d'entre nous pensaient que vous feriez l'objet de ces foudres, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils nous défendent de rester. À nous qui venons simplement veiller à ce que l'affrontement se déroule loyalement. Ce n'est pas uniquement votre vie et celle de votre époux que vous mettez en danger, mais notre existence à tous. Et si vous deviez obtenir ce que vous demandez, nous craignons à présent que le déplaisir des dieux ne retombe non seulement sur vous, mais sur tous les témoins. »
Elle battit des paupières et je crus la voir rosir. Son immobilité de statue proclamait qu'elle entendait, bien qu'elle restât face à la mer, le regard perdu au loin. Plus bas, mais d'une voix qui portait toujours, l'ours poursuivit.
« Revenez sur votre défi, Narcheska. Remplacez-le, si vous le désirez, par un autre plus approprié. Exigez de lui une défense de narval ou la dent d'un ours tué en combat singulier. Donnez-lui à affronter un animal qu'il convient à un homme de chasser, mais laissez-nous quitter cette île et le dragon qu'elle protège. » « Nul homme ne doit tuer Glacefeu, Narcheska, pas même pour l'amour de vous. »
Pendant tout ce discours, j'avais pensé qu'il parviendrait à la convaincre, mais il prononça ces derniers mots avec tant de dédain que j'en sentis moi-même la cinglure. Sans le regarder, Eliania répondit « Je maintiens mon défi. Puis elle se tourna vers Devoir et ajouta « Parce qu'il le faut, pour l'honneur du clan du Narval. » On eût presque cru qu'elle s'excusait, qu'elle regrettait ses paroles, mais devait néanmoins les prononcer. Le prince acquiesça lentement de la tête, acceptant à la fois le défi et l'affirmation qu'elle ne pouvait le retirer. C'était un acte de foi réciproque, et il me sembla comprendre alors ce qu'Imbre savait depuis quelque temps. Si ces deux jeunes gens apprenaient à s'unir sous le même joug, ils formeraient un couple que rien n'arrêterait. L'ours serra les poings, et ses mâchoires se crispèrent. Le hibou eut un hochement de la tête saccadée, comme pour graver l'instant dans sa mémoire. S'adressant à Péotre, la Narchesca reprit. « Ne devrions-nous pas nous préparer à nous mettre en route ? Le trajet sera long et ardu, paraît-il, pour parvenir jusqu'au dragon enfoui dans la glace. » Onde Noire inclina gravement la tête.
« Dès que nous aurons fait nos adieux à ton père. »
Par ces mots, du moins les entendis-je ainsi, il donnait congé à Sangrépé. Pourtant, celui-ci eut l'air non pas insulté, mais soulagé.
« Il faut profiter de la marée, en effet, » dit-il. « Soyez témoins !»
s'écria l'ours avec colère. Tous se tournèrent vers lui.
« Soyez témoins que si nous mourons ici, nous qui sommes venus à la requête du Edgurd, soyez témoins que si nous mourons ici, les clans du Narval et du Sanglier devront payer l'or du sang de nos maisons maternelles. Car notre présence n'est pas de notre choix, et nous ne désirons pas ce conflit. Si nous subissons le courroux des dieux, que nos familles ne demandent pas justice en vain. »
Un grand silence suivit ces mots, puis Péotre déclara d'un ton bourru.
« Je suis témoin. »
Harkon Sangrépé l'imita.
« Je suis témoin. »
Il s'agissait évidemment d'une coutume outrilienne que je ne connaissais pas. Imbre parut se rendre compte de ma perplexité et m'expliqua, non sans gêne,
Il vient de les lier l'un à l'autre. Le déshonneur ou la malchance qui découlera de nos actions retombera sur les clans du Narval et du Sanglier. L'ours en a pris chacun ici à témoin. »
J'eus l'impression que la facilité avec laquelle Péotre et Sangrépé acceptaient la manœuvre contrariait l'homme. Il crispa les poings à plusieurs reprises, mais comme nul ne daignait y prêter attention, il se détourna et s'éloigna. Le hibou lui emboîta le pas. Ils avaient sans doute espéré un refus qui se serait réglé à l'épée ou à main nue, alors que la concession faite les obligeait, leurs compagnons du Edgurd et eux, à poursuivre leur mission. Les adieux au père de la Narchesca se déroulèrent dans une atmosphère morose. Y participèrent les envoyés du Edgurd, Imbre, le prince, Péotre et la Narchesca. Nous autres gardes demeurâmes en retrait. L'ours se promenait sans but sur la grève, retournant des galets et embêtant à l'aide d'un bâton les petits crabes qui se dissimulaient en dessous. Sous prétexte de me déplacer pour le garder à l'œil, je me rapprochais insensiblement du fou. Il dut se rendre compte de mon manège, car il s'écarta un peu de l'esténiel. Parvenu à une distance où je pouvais lui parler à mi-voix, je lui dis « Ainsi, malgré tous mes efforts, tu as réussi à venir. Comment t'y es-tu pris ?» Nous étions de la même taille, mais il parvint néanmoins à donner l'impression de me regarder de haut. Ses traits figés dénonçaient une grande colère, et je crus qu'il refuserait de me répondre. Mais il déclara d'un ton froid.
« Par la voix des airs. »
Puis il se tut et se détourna. Je jugeais encourageant qu'il ne s'éloigna pas, mais peut-être désirait-il seulement ne pas attirer l'attention sur notre entretien. Je négligeais son explication facétieuse. Comment peux-tu m'en vouloir? Tu sais pourquoi j'ai agi ainsi. Tu affirmais que tu mourrais sur cette île. Je me suis donc arrangé pour t'empêcher d'y venir. Il garda le silence un moment. On poussa à la mer le canot où avait embarqué Harkon Sangrépé, puis deux de ses guerriers du sanglier prirent les avirons et se mirent à souquer vigoureusement. Leur expression disait clairement qu'il quittait l'île sans regret. Le fou me lança un regard en biais. Ses yeux assombris avaient la teinte du thé fort. Sans fard ni maquillage, sa peau avait une douce couleur brun doré.
Je savais ce que j'avais à faire. Tu aurais dû respecter cela, fit-il d'un ton de reproche.
Si tu apprenais que je cours à la mort, ne tenterais-tu pas de m'arrêter ? J'avais posé la mauvaise question, et je m'en rendis compte aussitôt. Contemplant le navire où les matelots remontaient la chaîne d'ancre et manœuvraient les voiles, il répondit à mi-voix sans presque remuer les lèvres.
Au contraire,
à de nombreuses reprises, j'ai vu que la foi ou ton obstination allait te mettre en danger, mais jamais je ne me suis opposé à ta volonté de courir ces risques. Là-dessus, il me tourna le dos et s'éloigna lentement. Lest me lança un coup d'œil perplexe, puis se précipita sur ses traces. Je remarquai l'air de dégoût avec lequel Civil les observait. J'entendis des pas crissés sur le gravier de la plage et Vitram qui s'approchait. J'eus du mal à soutenir son regard. J'éprouvai un étrange sentiment de culpabilité, comme si je lui faisais affront en refusant l'enseignement qu'il m'offrait. Pourtant, s'il se sentait insulté, il le cachait bien. Du menton, il désigna le fou et Lest.
« Vous le connaissez, n'est-ce pas ?»«
Naturellement. » La question me surprenait. « C'est le seigneur Doré, venu de Castelcerf. Vous ne l'aviez pas remis ?»«
Non, du moins pas tout de suite. Il a fallu que Messire Humbre l'appelle Sire Doré pour que je note la ressemblance. Toutefois, même après avoir entendu son nom, j'ai gardé l'impression que je ne le connaissais pas du tout, à l'inverse de vous, apparemment. Je le trouve très insolite. Arrivez-vous à le percevoir ?»
Je compris ce qu'il voulait dire. Le fou restait indétectable à mon vif. Non, et il n'a pas d'odeur. Il n'ajouta rien, mais à l'évidence, je lui avais donné matière à réflexion. Je baissai les yeux. Tram, je vous présente mes excuses. Je me promets toujours de trouver du temps à passer avec vous, mais je n'y arrive jamais. Ne croyez pas que votre proposition ne m'intéresse pas ou que je dédaigne ce que vous avez à m'apprendre. Mais il y a toujours quelque chose pour m'empêcher de faire ce dont j'ai envie.
« Comme maintenant, » répondit-il avec un sourire de connivence,
et il regarda lourd, les sourcils levés. Le petit homme était accroupi près d'un morceau de bois flotté qu'il avait retourné. Si absorbé dans l'observation des crevettines et des crabes qu'il ne prêtait nulle attention aux vagues, tout près de lécher ses pieds. Si je n'intervenais pas vite, il passerait une journée inconfortable, les chaussures trempées. J'échangeai un regard entendu avec Tram et me hâtai de rejoindre le simple d'esprit. Avant même que le navire ne disparût à l'horizon, Longue Mèche commença de donner ses instructions. Avec la précision naturelle d'un militaire aguerri, il ordonna aux hommes de répartir l'équipement et les vivres en charges individuelles. D'après le nombre de paquetages qu'il fit ainsi préparer, il prévoyait que chacun transporterait sa part jusqu'au bivouac suivant. Lourd avait cessé de retourner galets et bouts de bois sur la plage et se tenait assis à l'entrée de notre tente, l'air abattu, une couverture sur les épaules. Pourtant, il ne faisait pas froid à ce point. Je me demandais avec angoisse si la fièvre ne l'avait pas repris. J'allais parler à Longue Mèche. « Quelle distance allons-nous couvrir aujourd'hui ?» Je désignai Lourd de la tête pour lui expliquer l'objet de ma préoccupation. Le capitaine prit un air soucieux devant mon inquiétude.
On m'a dit qu'il fallait 3 jours pour parvenir là où gît le dragon. Mais vous savez sûrement qu'une telle estimation n'a guère de sens. Là où un marcheur expérimenté avec un sac léger mettra une journée, il en faudra 3 à un courtisan et tout son train.
Il parcourut d'un œil songeur le ciel limpide, puis les pics enneigés.
Ce ne sera une partie de plaisir pour personne, déclara-t-il enfin. L'hiver règne toujours sur un glacier.
Je pris congé après l'avoir remercié. Les autres gardes avaient commencé à démonter leur tente, mais Lourd n'avait pas bougé de la nôtre. Je plaquai un masque réjoui sur mes traits, mais l'accablement me saisit à la pensée de la tâche qui m'attendait. S'il m'avait voué une violente rancune parce que je l'avais embarqué de force à bord d'un navire, quels seraient ses sentiments envers moi après que je lui aurais fait traverser un glacier ?
« Allons, il faut emballer nos affaires, Lourd, » fis-je d'un ton plein d'allant.
« Pourquoi ?»«
Voyons, si nous voulons tuer le dragon, nous devons nous rendre là où il se trouve.
Je n'ai pas envie de tuer le dragon.
De toute manière, ce n'est pas nous qui nous en chargerons, mais le prince. Nous allons l'y aider, rien de plus.
Je ne veux pas y aller.
Il allongea la dernière syllabe d'un ton lugubre. Mais à mon grand soulagement, il se leva et sortit de la tente comme s'il s'attendait à ce que je la démonte aussitôt. Je sais, Lour. Moi non plus, je n'ai pas envie de patauger dans toute cette neige et toute cette glace, mais il le faut. C'est notre devoir de servant du roi. Bon. Avant d'abattre la tente, nous ferions bien de nous habiller plus chaudement, d'accord?
On n'a pas de roi.
Le prince Devoir deviendra roi un jour, et nous resterons à son service. Nous sommes donc les servants du roi dès aujourd'hui. Mais tu peux dire servant du prince, si tu préfères.
Je n'aime pas la neige et la glace.
De mauvaise grâce, il rentra dans notre abri et le parcourut des yeux d'un air désemparé. Je vais prendre tes affaires, fis-je d'un ton rassurant, et je joignis le geste à la parole. J'ai occupé bien des fonctions dans ma vie, et tenir celle de valet pour le petit homme ne me paraissait pas aussi incongru qu'à une époque plus ancienne. Je sortis ses vêtements, puis les lui enfilai. J'eus l'impression d'habiller un enfant de grande taille. Il se plaignit parce que la seconde chemise remontait les manches de la première, puis parce qu'il avait les pieds serrés dans ses bottes à cause des chaussettes supplémentaires. Quand j'en eus terminé, j'étais en nage et j'étouffais littéralement. Je l'envoyais m'attendre dehors en l'avertissant de rester loin de la mer, puis je me rajoutais moi-même une épaisseur de vêtements et empaquetais de nouveau nos affaires. Soudain, je ne pus retenir un sourire. Je venais de prendre conscience que je redoutais le trajet à venir parce que le froid réveillait toujours les douleurs de mes vieilles cicatrices, et je dus faire un effort pour me rappeler qu'elles avaient disparu grâce à ma récente remise en état par l'art, du moins celle qui touchait jusqu'aux muscles et aux os par lesquels la souffrance pénétrait jusqu'au plus profond de moi. Des marques superficielles, qui n'affectaient que la peau, les avaient remplacées pour donner l'illusion qu'elles existaient toujours. Je fis rouler mes épaules pour me prouver que la blessure dans mon dos ne tiraillait plus mes chairs. C'était bon, et, un sourire béat aux lèvres, je sortis nos sacs à dos de la tente que je démontai ensuite. Chargé de notre équipement, je me rendis auprès de Longue-Mèche qui surveillait la répartition des charges. Une seule petite tente restait debout. Le capitaine avait décidé d'établir une réserve de vivres près de la grève, et Humbre et lui discutaient pour savoir s'il fallait un ou deux hommes pour la garder. Le conseiller royal voulait n'en conserver qu'un afin de disposer de la plus grande main-d'œuvre possible, tandis que Longue-Mèche affirmait, courtois mais têtu, qu'il devait en laisser deux.
« Il règne une atmosphère inquiétante sur cette île, monseigneur, et vous savez comme moi que les gardes sont superstitieux. Les représentants du Edgurd ont parlé d'un homme noir, et maintenant les gardes murmurent qu'en effet ils ont peut-être bien aperçu une ombre mystérieuse en train de rôder près du camp hier soir. » Un homme seul ne saura pas faire face à de telles imaginations, alors que deux joueront au dé, bavarderont et veilleront mieux sur nos provisions. Pour finir, Longue-Mèche l'emporta, et Humbre accepta de laisser deux gardes sur place. On désigna Perdreau et Rossé. Cette question réglée, le vieil assassin s'adressa à moi.
« Lour, le compagnon du prince, est-il prêt à se mettre en route, Blaireau ?»
Autant qu'il est possible, sire Humbre. Mais ça ne l'enchante pas du tout.
Pas plus qu'aucun de nous. Parfait. J'ai ajouté quelques objets au matériel dont j'aurai besoin quand nous atteindrons le dragon. Longue-Mèche les a distribués pour en faciliter le transport.
Très bien, sire Humbre. Je m'inclinai. Il s'éloigna en hâte, tandis que Longue-Mèche me tendait un tonnelet de poudre explosive à fourrer dans mon paquetage. Je poussai un gémissement muet. Il était plus lourd que je ne m'y attendais. Nous n'en emportions que deux. Le second avait été confié à Crible, et les autres demeuraient dans la réserve. Un homme seul eût pu entamer le trajet peu après le départ du navire de Sangrépé, mais quand toute une troupe doit se préparer, c'est une autre histoire. Le soleil avait atteint le midi, que nous n'avions pas encore achevé nos préparatifs. J'observais la rapidité avec laquelle le fou démonta sa tente, sans l'aide de personne. J'ignore quel matériau la constituait, mais une fois pliée, elle se réduisait à un paquet d'un encombrement extraordinairement faible. Il prit sur son dos la charge de toutes ses affaires, ce qui m'aurait laissé pantois si je ne l'avais pas su beaucoup plus robuste que sa mince charpente ne prêtait à le supposer. Il nous accompagnait, mais n'appartenait à aucun groupe. Les envoyés du Hedgurd le considéraient avec la méfiance de nombreux guerriers à l'égard de ceux que les dieux ont touchés. Ils ne le rejetaient pas, mais jugeaient préférable, à l'évidence, de ne pas lui prêter attention et de ne pas attirer son regard. Les gardes paraissaient estimer que sa présence ne les concernait pas, et en tout cas, n'avaient aucune envie qu'on les désigne pour l'aider à porter son chargement ni le servir en aucune manière. Niel le lorgnait de loin, flairant une histoire intéressante, mais pas encore assez pour s'approcher de lui. Seul Lest semblait fasciné par lui, sans chercher le moins du monde à s'en dissimuler. Il avait posé son propre paquetage à terre et, assis dessus, il bavardait avec lui. Le fou a toujours été brillant causeur, et l'empressement du jeune garçon à rire de ses saillies paraissait exacerber sa vivacité d'esprit. Tram les regardait avec une expression apparemment approbatrice, et je m'aperçus que, pour la première fois, Lest manifestait une attirance amicale et sans contrainte pour quelqu'un. Alors que je me demandais comment le fou s'y était pris pour faire fondre sa réserve, je surpris l'air révolté avec lequel Sylville les observait. Il croisa mon regard posé sur lui et détourna aussitôt les yeux, mais je sentis le malaise qui bouillonnait en lui. Pouvais-je trouver un moment pour lui parler en privé afin d'apaiser ses craintes? Manifestement, il n'avait pas oublié l'attitude de Sire Doré quand nous avions logé chez lui, et je devinais sans mal l'inquiétude qui le rongeait. Il croyait que le fou avait entrepris de séduire l'enfant. Je devais intervenir avant que Sylville ne confie ses soupçons à quiconque, car à mon avis, les Outriliens ne montreraient guère de tolérance envers ce genre de comportement, que l'accusé fût ou non touché par les dieux. Longuemèche fit distribuer à tous des bâtons de marche ferrés, article que, pour ma part, je n'aurais jamais songé à emporter. Mais c'est Péotre qui nous les fournissait en réalité, comme il apparut quand Imbre nous appela à nous réunir sur la grève pour écouter le Kaempra avant de nous mettre en route. La Narcheska et lui portaient des charges aussi lourdes que les autres. La jeune fille se tenait à côté de trois traîneaux, contribution eux aussi dons de noir, sur lesquels s'entassait la plus grande partie de nos vivres. Elle arborait un long manteau de renard blanc, et son bonnet de tissu multicolore prenait toute la masse de son abondante chevelure noire. Les semelles de ses bottes souples étaient en peau de phoque. Le dessus en daim, avec la fourrure à l'extérieur, des lanières de cuir les maintenaient lassées jusqu'aux genoux. Malgré son air grave, on l'eût dit apprêtée comme une fiancée des montagnes. Péotre, à ses côtés, la dominait de toute sa masse augmentée de sa tenue en loup noir et de son pantalon en peau d'ours. Plus qu'aucun vivier que j'eusse jamais connu, il ressemblait à un change-forme tout droit sorti d'une légende. Les nombreuses épaisseurs de vêtements qui l'emmitouflaient lui donnaient une corpulence presque comique. Pourtant, nul ne souriait quand il s'adressa à nous, et chacun tendit attentivement l'oreille. « Je sais où dort le dragon, dit-il. Je m'y suis rendu deux fois déjà. Néanmoins, il me sera difficile de vous y conduire. Sur un glacier, connaître sa destination ne signifie pas qu'on en connaît le chemin. La pierre et la terre ne changent pas d'une année sur l'autre, mais un glacier bouge, et celui-ci compte parmi les plus actifs du monde. Il sommeille et il marche. Il craque en s'éveillant et ses bâillements s'ouvrent en larges fissures. Puis il se rendort, et le vent forme des ponts de neige sur ses crevasses béantes, qui dissimulent ainsi leur danger à tous, sauf aux voyageurs les plus prudents. Tomber dans l'une d'elles équivaut à se faire engloutir par un démon des glaces. Vous dégringolerez dans les ténèbres, et s'en sera fini de vous. Nous vous pleurerons, mais nous poursuivrons notre route. » Son regard nous balaya tous, et je ne fus pas le seul à réprimer un frisson d'angoisse. « Suivez-moi, reprit-il, mais ne vous contentez pas de marcher derrière moi,
mettez vos pas exactement dans les miens. Et même, alors, ne vous fiez pas à la solidité du sol. Une fois sur le glacier, sondez la neige devant vous à chaque enjambée. Un, deux ou trois hommes peuvent franchir un abîme invisible, sans accident avant vous, puis la croûte céder sous votre poids. Sondez le terrain à l'aide de votre bâton avant chaque pas. Vous vous en lasserez vite, mais ne cessez que si vous êtes aussi là de vivre. » À nouveau, il nous toisa du regard et à nouveau il hocha la tête. Enfin, il dit « Suivez-moi. » Et sans un mot de plus, il nous tourna le dos et se dirigea vers le haut de la grève. La Narcheska lui emboîta le pas, puis le prince, puis Imbre. Sir Doré prit place derrière eux, et nul ne songea à lui contester ce droit. Le clan de Vif vint ensuite, chargé de tirer un traîneau, puis les témoins du Hedgurd, et enfin Longue-Mèche et Est, avec le second traîneau, et Adroit et Crible, avec le troisième. Je me retrouvais en avant-dernière position, lourd marchant pesamment derrière moi. J'avais pris une partie de son chargement, mais lui en avait laissé assez pour ne pas blesser son amour-propre. Je m'en mordis bientôt les doigts et résolus de le décharger complètement pour le trajet du lendemain, même dans les conditions les meilleures. Ses jambes courtes et son embonpoint lui auraient rendu la marche difficile. Alourdi par un sac à dos et gêné par une toux persistante, il était incapable de tenir la cadence qu'imposait Péotre. Le temps que nous parvenions à l'orle du glacier, un écart s'était déjà creusé entre le reste du groupe et nous deux. Chacun avait commencé à sonder diligemment la neige à chaque pas, et je crus que cela ralentirait assez nos compagnons pour nous permettre de les rattraper. Je n'avais pas compté avec Lourd et son esprit littéral, qui lui faisait mettre en pratique les recommandations de Péotre avec la plus grande application. Il enfonçait son bâton dans la neige devant lui à chaque pas, avec la même énergie qu'il eût déployée pour harponner du poisson. Il fut bientôt hors d'haleine, mais refusa obstinément mes offres de sonder le terrain pour nous deux.
« Je ne veux pas me faire avaler par un démon des glaces !»
répétait-il d'un ton maussade. « Vous voyez notre piste ?» m'artisa de voir. « Très clairement, ne vous inquiétez pas pour nous. S'il faut que vous nous attendiez, je vous préviendrai. Au moins, tous ces efforts tiennent chaud à Lourd.
« Trop chaud, trop de travail !»
intervint l'intéressé. « Tape le sol avec le bout de ton bâton. Tu n'es pas obligé de l'enfoncer brutalement. »«
Si !»
répliqua-t-il. Discuter ne servait à rien. Je le laissais s'agiter comme bon lui semblait, bien qu'avancer à une allure d'escargot pour lui permettre de rester à ma hauteur, mit ma patience à rude épreuve. Je m'ennuyais. Et j'avais trop de temps pour songer à notre situation. Je n'aimais pas la tournure des événements, sans être capable pour autant de mettre le doigt sur ce qui me tracassait précisément. Peut-être Lourd avait-il vu juste. Il s'était produit des horreurs sur cette île, et on avait l'impression qu'elles se produisaient à l'instant même. Le vent soufflait sans discontinuer, mais le ciel restait bleu et limpide. À intervalles plus ou moins réguliers, des bouts de bois visiblement anciens pointaient de la neige et sur certains étaient fixés des lambeaux de tissu aux couleurs vives. Ils servaient sans doute à jalonner le chemin que suivait Péotre, car il s'arrêtait souvent pour les redresser ou y attacher un fanion neuf. Le groupe de tête progressait pourtant toujours plus vite que Lourd et moi. Peu à peu, l'écart augmenta et je ne distinguais plus, pour finir, qu'une file de petits pantins qui avançaient sur le glacier en exécutant une danse étrange rythmée par des coups de bâton. Nos ombres s'étirèrent de plus en plus, bleu pâle sur la neige craquante. La surface sur laquelle nous marchions ne ressemblait pas à de la vraie glace, ni à de la vraie neige, telle que je les connaissais du moins. Sous une couche de cristaux récents se dressaient des aiguilles de glace compactées, et nous nous déplacions sur leurs pointes. Au bout d'un moment, je pris conscience que j'avais décidé d'avoir un entretien avec le fou ce soir-là, sans me préoccuper de ce qu'en penseraient les uns ou les autres. Presque aussitôt, je sentis un mince fil d'art s'insérer dans mon esprit, envoyé par Imbre. Sa pensée ne s'adressait qu'à moi. « Me restes-tu loyal, mon garçon ?» Il aurait pu se montrer fier de ma réponse, lui-même n'aurait pas trouvé mieux dans un si bref laps de temps.
Autant que jamais.
Il eut un petit rire sans humour.
Ah, enfin, tu ne me mens pas au moins. Que t'a-t-il dit?
Le fou.
Qui d'autre?
Nous n'avons parlé que de la raison pour laquelle j'ai tenté de l'empêcher de nous suivre, lui sauver la vie. Apparemment, il juge ce motif insuffisant.
Il croit sans doute que c'est moi qui t'y ai poussé afin de le tenir loin du dragon tant que nous ne l'avions pas exhumé et décapité.
Il se tut un instant.
Anarchesca pleure. Elle ne se retourne pas pour ne pas montrer ses larmes, mais je l'entends à sa respiration. Elle s'est essuyée deux fois les yeux avec ses moufles avant de se plaindre de l'éclat de la lumière sur la glace qui l'a fait larmoyer. Réfléchis avec moi, Fitz. Pourquoi peut-elle bien pleurer?
Je l'ignore. La marche est rude, mais je ne la crois pas femme à s'écrouler en sanglots devant une tâche difficile. Peut-être craint-elle le courroux de l'homme noir, ou bien redoute-t-elle d'avoir placé sa famille et celle de son père dans une position désavantageuse vis-à-vis du Edgurd en...
Chut!
La pensée agacée de Lourd interrompit le fil de mon raisonnement.
Elle est triste, alors elle pleure. Arrêtez de faire du bruit et écoutez. Écoutez et cessez de casser la musique.
Imbre et moi nous tûmes aussitôt. Nous étions convaincus d'artiser cela seul. Le vieil assassin devait se demander à présent, tout comme moi, si le prince avait suivi notre conversation lui aussi. Mais pourquoi Imbre voulait-il lui cacher nos propos? Je continuais d'avancer lourdement à la suite du groupe de Péotre, dont les silhouettes allaient s'amenuisant. Elle se dirigeait vers une crête sculptée par le vent et ne tarderait pas à disparaître. L'oncle d'Eliania n'avait pas menti en parlant de l'activité du glacier. Certaines portions présentaient le lycée d'un gâteau recouvert de sucre pulvérisé. D'autres évoquaient le même gâteau qu'on aurait laissé tomber par terre. La piste de nos compagnons restait bien visible pour le moment, mais je le savais, à mesure que descendrait le soir, les ombres brisées risquaient de la rendre plus difficile à distinguer. Je lançai un coup d'œil exaspéré à Lourd par-dessus mon épaule. Il avançait plus lentement que jamais. Aussi hérissé par le silence qu'il nous imposait, qu'impatienté par son train de tortue, je lui tournai le dos et me mis à marcher d'un pas vif, sans oublier toutefois de sonder la neige devant moi à chaque enjambée. Je pensais qu'il réagirait en me voyant m'éloigner, mais quand je le regardais, il continuait de se déplacer pesamment, avec la même prudence. Comme je l'observais avec irritation, sa façon de se mouvoir m'intrigua soudain. On eût dit qu'il dansait. Il enfonçait son bâton dans la neige une fois, deux fois, trois fois, puis il avançait d'un grand pas, au bord du déséquilibre. Il sondait à nouveau le terrain, un, deux, trois coups, puis faisait un nouveau pas exagéré. Je baissai mes remparts pour entendre sa musique incessante. D'habitude, j'identifiais les éléments qu'il y incorporait, mais ce jour-là, il effectuait chaque pas sur un son chuintant, qui ressemblait à un souffle d'air, tandis que son bâton s'enfonçait au rythme d'une percussion grave et régulière. Je me coupais de sa mélodie et tendis l'oreille sans parvenir à reconnaître des bruits similaires dans l'environnement du glacier. Je m'étais arrêté, et Lourd m'avait presque rattrapé. Il leva les yeux de la neige à ses pieds et me vit en train de l'observer. Il se renfrogna, puis son regard se déplaça derrière moi, et il fronça encore davantage les sourcils.
« Ils ne sont plus là. Pourquoi tu n'as pas fait attention? Ils ne sont plus là, et on ne sait pas où ils sont partis. »
« Ne t'en fais pas, Lourd, » répondis-je. « On voit encore leurs traces. Et là, regarde, en haut de cette côte, il y a un bout de bois avec un chiffon accroché au sommet. Nous allons les retrouver, mais à condition de se dépêcher. » Je m'efforçais de ne pas laisser deviner l'inquiétude que me causait la tombée de la nuit. Les ombres s'approfondissaient, et je n'avais nulle envie d'affronter seul l'obscurité au milieu du glacier. Il tendit soudain son bras vers la crête.
« Là-bas, tout va bien, en voilà un !»
Je me tournai dans la direction indiquée, songeant que le prince avait dû envoyer un garde se poster là pour nous donner un point de repère. Lourd avait raison. Il y avait quelqu'un sur la crête. Mais malgré la distance et le jour faiblissant, je vis qu'il ne s'agissait pas d'un membre du groupe. L'inconnu se déplaçait à mouvement vif, et curieusement,
mais sans que je pusse expliquer en quoi, sa démarche me parut familière. Je ne distinguais que sa silhouette qui franchissait le sommet, puis il disparut. Une peur sourde me glaça les sangs, et j'artisais frénétiquement à un bré de voir. « L'homme noir ! Je crois que l'homme noir vous suit !» Je regrettais aussitôt mon affolement, et de voir ne put cacher son amusement. « Je ne vois personne derrière nous, Fitz, rien que de la neige et des ombres. Allez-vous bientôt passer la crête ?» Nous n'avons même pas entamé la montée. Lourd et distrait, il avance lentement.
« Pas distrait !»
Encore une fois, la facilité avec laquelle le petit homme avait capté des pensées qui ne lui étaient pas adressées me laissa interdit.
« J'écoute la musique, c'est tout. Sauf que tu n'arrêtes pas de la casser !»
L'art d'imbre s'interposa comme de l'huile sur une mer agitée.
J'ai demandé à Péotre si nous ferions halte pour la nuit, et il m'a dit que oui. Une fois le sommet franchi, vous devriez nous apercevoir sans difficulté. Il m'a déjà désigné l'emplacement du bivouac. Comme rien ne le cache, vous n'aurez pas de mal à repérer nos feux.
Des feux pour la cuisine? On mange bientôt?
Oui, Lourd, on mange bientôt. Sans doute dès ton arrivée. J'ai aussi apporté des friandises du navire. Je les partagerai avec toi si tu me rejoins, avant que je les aie mangées toutes. J'admirai la rouerie du prince tout en la déplorant. Elle détourna l'attention du simple d'esprit de sa musique. Il consentit à marcher dans mes pas en me laissant m'occuper de sonder la neige. Je trouvais d'ailleurs un peu exagérées les recommandations de prudence de Péotre. Assurément, si une section du glacier avait supporté le passage de tout le groupe de têtes, elle résisterait à celui de deux personnes de plus. Ce raisonnement se révéla exact, et nous gravîmes la pente sur les traces de nos prédécesseurs, non sans nous arrêter plusieurs fois, pour permettre à Lourd de finir de tousser et de reprendre son souffle. Au sommet de la crête, je vis aussitôt le campement en contrebas. On avait piqué des jalons munis de fanions colorés sur tout son périmètre. À l'évidence, Péotre avait ainsi circonscrit une zone de sécurité pour le groupe. Les grandes tentes du prince et de la Narcheska se dressaient déjà comme des champignons brusquement issus du sol. Et, dans l'éclat mourant du jour, celle du fou évoquait une fleur sur la neige. Éclairée de l'intérieur, ces panneaux aux couleurs vives chatoyaient comme des vitraux, et ce que j'avais pris pour des motifs sans signification prenait soudain l'aspect d'une sarabande de dragons et de serpents. Le fou déclarait clairement son allégeance. Près des tentes, ternes par comparaison, du reste du groupe brûlaient deux petits feux. Les hommes du Hedgurd avaient monté leur abri un peu à l'écart des nôtres et allumé leur propre flambée. Comme pour montrer clairement aux dieux qu'ils n'étaient pas des nôtres et ne méritaient pas de partager notre sort. Je ne vis nulle trace de l'homme noir, ni aucune cachette, ou quiconque pourrait se dissimuler. Pourtant, cette constatation, loin d'apaiser mes inquiétudes, les accrut au contraire. Comme nous descendions vers le camp, nous rencontrâmes notre première fissure dans la glace, simple lézarde étroite et sinueuse, que je franchis d'un pas. L'ours s'arrêta net et contempla les entrailles de la fracture dont les teintes s'étageaient du bleu pâle au noir. « Allons, » fis-je d'un ton encourageant, « le camp n'est plus très loin. Je crois d'ailleurs que je sens des odeurs de cuisine. »«
C'est profond. »
Il leva les yeux vers moi.
« Péotre a raison. Elle pourrait m'avaler tout rond et clac !»
Il recula. « Mais non, tu n'as pas à t'inquiéter, Lourd. Tu n'as pas affaire à un monstre, mais à une simple crevasse dans la glace. Viens !» Il inspira longuement, puis se mit à tousser. Quand sa quinte passa, il dit
« Non, je retourne à la plage. »
« Tu ne peux pas, Lourd. La nuit va tomber. Ce n'est qu'une crevasse, tu n'as qu'à l'enjamber. »
« Non !»
Il secoua la tête, son menton frottant sur son col.
« Trop dangereux !»
Pour finir, je franchis la fissure en sens inverse et le pris par la main pour le persuader d'avancer. Je n'avais pas posé le pied par terre que je faillis tomber, car il sauta brusquement l'obstacle d'un bond maladroit et exagéré qui me déséquilibra. Comme je vacillais, je m'imaginais, dans une vision d'effroi, enfoncé dans la fissure étroite, coincé trop profondément pour qu'on pût me hisser, mais empêché de descendre plus bas. Lourd perçut ma peur et me réconforta.
« Tu vois, je te disais bien que c'était dangereux. Tu aurais pu mourir. »
Descendons au camp et n'en parlons plus, répondis-je. Comme promis, on nous avait gardé un repas chaud. Crible et Est avaient déjà fini de manger et s'entretenaient à mi-voix avec Longue Mèche qui organisait les tours de garde pour la nuit. J'installai l'ours sur mon sac à dos près du feu, pris nos gamelles et me rendis auprès d'Adroit, qui faisait le service avec une louche. Le dîner comprenait un seul plat, un ragoût de viande salée, trop salée justement, et pas assez cuite. Avec un sourire ironique, je songeais que je m'étais habitué bien vite à la chair succulente de Castelserre. Avais-je donc déjà oublié l'ordinaire de l'armée? J'avais connu certaines circonstances où, au bout d'une longue journée d'hiver, j'avais mangé bien pire, quand je n'avais pas dû carrément me serrer la ceinture. Je pris une nouvelle bouchée de fricot. À la suite de mes réflexions, j'aurais dû trouver meilleur goût à la viande dure. Mais il n'en fut rien. Je coulai un regard discret vers Lourd, pensant qu'il ne tarderait pas à se plaindre de la cuisine. Mais il contemplait les flammes avec une expression épuisée, sa gamelle en équilibre précaire sur ses genoux. « Tu devrais manger, Lourd, » fis-je, et il sursauta comme si je l'avais brutalement tiré d'un rêve. Je saisis son écuelle avant qu'elle ne se renverse et la lui rendit. Il se mit à se restaurer, mais d'un air las, sans son enthousiasme coutumier pour les plaisirs de l'estomac, et en s'interrompant souvent pour tousser. Inquiet, j'achevai rapidement mon repas et laissai le petit homme les yeux fixés sur le feu qui baissait et mâchant méthodiquement sa viande. Ambre et Devoir étaient assis près de l'autre foyer avec le clan de vif du prince. Je les entendis bavarder, rire parfois, et j'enviai un instant cette joyeuse convivialité. Il me fallut quelque temps avant de m'apercevoir que le fou ne se trouvait pas parmi eux. Sans doute avait-il regagné sa tente. Puis je remarquai une autre absence, celle de Péotr et de la Narcheska, qui manquaient eux aussi au groupe. J'observai leur tente. Nulle lumière n'y brillait et rien n'y bougeait. Dormait-il déjà? Ma foi, peut-être avait-il raison. Le Khaempra nous réveillerait sûrement très tôt pour reprendre notre chemin. Ambre dut m'apercevoir debout, l'air désœuvré, à la périphérie de la lumière du feu. Il quitta ses compagnons comme pour aller se soulager, et je le suivis sans bruit. Je m'arrêtai près de lui dans le noir et murmurai. L'état de Lourd me préoccupe. Je le trouve bizarrement distrait, et d'une minute à l'autre, son humeur change de l'exaspération à l'effroi, en passant par l'exaltation. Le vieil assassin hocha lentement la tête.
Il règne une atmosphère étrange sur cette île. Je ne saurais la qualifier précisément, mais elle pèse sans cesse sur mes pensées. J'éprouve une peur et une anxiété sans rapport avec la réalité, puis cela disparaît. J'ai l'impression que cette terre me parle par le biais de mon art. Or, si quelqu'un d'aussi peu doué que moi dans cette magie y est sensible, qui sait ce qu'entend Lourd ?
Je sentis de l'amertume dans sa dépréciation de son talent. « Vous devenez chaque jour plus fort, assurai-je. Mais vous avez peut-être raison. Moi aussi, je me sens tenaillé toute la journée, par une angoisse imprécise. Certes, j'ai une nature parfois inquiète, mais ce que je ressens ici est encore plus informe que d'habitude. Croyez-vous à une relation avec les souvenirs emprisonnés dans la pierre ? » Il poussa un grognement résigné.
« Comment le savoir ? Il faut veiller à ce que Lourd mange et dorme bien. Voilà la seule aide que nous pouvons lui apporter.
Son art devient de plus en plus puissant.
Je l'ai remarqué, oui. Mes maigres capacités ont l'air encore plus pâles en comparaison.
Vous progresserez avec le temps, Ambre, avec le temps et de la patience. Vous vous débrouillez bien pour quelqu'un qui débute si tardivement et qui n'a entamé sa formation que récemment.
Le temps. En fin de compte, nous ne disposons de rien d'autre, et pourtant, nous n'en avons jamais assez. Tu prêches la patience à ton aise. Tu as joui de toute la magie que tu pouvais désirer, et même davantage, toute ton existence, tandis que je dois batailler bec et ongles pour en obtenir une minuscule parcelle au soir de ma vie. Comment peut-on parler de justice quand un simple d'esprit possède en abondance, sans lui accorder la moindre importance, ce qui me manque si cruellement ?
Il se tourna brusquement vers moi.
« Pourquoi as-tu toujours bénéficié d'un si grand art, par pleine bouffée, sans jamais désirer de toute ton âme le maîtriser, ainsi que j'y aspire depuis toujours ?»
Il commençait à m'effrayer. « Imbre, Je crois que nous sommes victimes de l'influence de cette île, qui exaspère nos peurs et nos désespoirs. Défendez-vous-en, dressez vos murailles, et ne vous fiez qu'à votre logique.
Jamais je n'ai laissé mes émotions me dominer. Mais ce temps que nous perdons à bavarder serait mieux employé à dormir, dans ton cas comme dans le mien. Occupe-toi de l'our le mieux possible, je me charge du prince. Lui aussi paraît en proie à une humeur plus sombre que d'ordinaire.
Il frotta ses mains gantées l'une contre l'autre.
« Je suis vieux, Fitz, vieux et fatigué, et j'ai froid. Je me réjouirai quand cette aventure s'achèvera enfin et que nous prendrons le chemin du retour. »«
Moi aussi, » répondis-je avec ferveur. « Mais je dois encore vous faire part d'une information. »« C'est étrange. Je croyais naguère que l'art assurait le secret d'une conversation. Or, je dois vous rencontrer à l'écart et m'entretenir avec vous à mi-voix. » Je ne crois pas lourd disposé à m'écouter favorablement, lui demander ce service. Il m'en veut toujours. Peut-être accepterait-il si cela venait du prince ou de vous.
« Mais quoi donc ?»
fit Imbre avec impatience. Il s'agitait danser d'un pied sur l'autre, et je compris que le froid pénétrait sa maigre et vieille carcasse. Ortiz s'est rendu à Castelserre. Notre oiseau a dû parvenir à la reine, qui a dépêché un émissaire auprès de Burick pour qu'il l'envoie au château se placer à l'abri du danger. Elle sait en outre que la menace qui pèse sur elle est liée au but de notre mission, rapporter la tête du dragon. Je ne pus me résoudre à dire à Imbre qu'elle avait aussi appris notre parenté. Je tenais à découvrir ce que Burick avait révélé exactement à ma fille avant que ce secret ne cesse d'en être un. Le conseiller royal discerna aussitôt les implications de la nouvelle.
Or, l'our parle à Ortiz dans ses rêves. Nous pouvons donc communiquer avec Castelserre et la reine.
Presque. Il faut aborder la question avec circonspection, à mon avis. L'our m'en veut toujours et risque de nous jouer de mauvais tours s'il pense pouvoir se venger ainsi de moi. Ortiz aussi éprouve de la rancune contre moi. Je ne puis la contacter directement, et j'ignore quelle attention elle accorderait à des messages de ma part qui lui parviendraient par le biais de l'our. Il poussa un grognement contrarié.
« Tu t'y prends bien tard pour te ranger à mes vues la concernant, Fitz. Je n'ai pas envie de te faire de reproches, mais si tu nous avais laissé prendre Ortiz sous notre protection dès que nous avons détecté son talent, jamais elle n'aurait couru de risque, et nous ne serions pas aujourd'hui paralysés par vos querelles personnelles. Le prince ou moi pourrions entrer en contact avec elle si on l'avait formée convenablement à sa magie. » Nous aurions pu rester en communication avec Castelserre depuis le début du voyage.
Je savais ma remarque puérile, mais je répondis néanmoins. Vous l'auriez sans doute emmené avec nous, afin d'augmenter la réserve d'énergie du prince. Il soupira comme s'il avait affaire à un élève entêté qui refuse d'admettre qu'il a tort. Ce qui était le cas, je pense.
Crois ce que tu veux, Fitz, mais je t'en prie. Ne fonce pas tête baissée comme un taureau harcelé par des abeilles dans cette voie qui s'offre à nous. Laisse à Ortiz quelques jours pour s'acclimater à Castelserre. Pendant ce temps, le prince et moi discuterons de ce qu'elle doit apprendre sur elle-même et de la meilleure façon de l'approcher par l'entremise de l'our. Lui aussi aura peut-être besoin d'une certaine préparation.
Le soulagement me submergea. J'avais redouté que ce ne fût Imbre lui-même qui chargea tête baissée. « J'agirai selon vos conseils. Procédez avec douceur. »«
Voilà qui est bien !»
dit-il d'un ton absent. Je savais que son esprit travaillait déjà sur la meilleure manière de déployer ses nouveaux pions sur l'échiquier. Nous nous séparâmes pour la nuit.